J'ai travaillé récemment avec des réfugiés, quoi, il y a une semaine, même que c'était mes vacances. J'étais une journée avec eux, j'avais déjà prévu ça, puis on avait repoussé nos vacances, donc voilà. Et il y a une chose qui me fascine toujours avec ces personnes qui ont vécu les hauts et les bas de leur pays, la guerre souvent, la persécution pour certains. Qui ont leur vie qui est en danger, qui ont vécu tous les aléas du chemin vers un pays. Là, on parlait d'intégration, immigration et intégration, c'était le thème de la journée. Et une chose qui me frappe toujours, c'est cette foi qu'ils ont, qui les ancre quelque part dans cette espérance, malgré que les circonstances ne sont pas bonnes. Et on va parler de discipulat un peu aujourd'hui. Quoi commencer, parce que c'est un thème qui est assez grand, qui est immense et tout ça. Mais le titre que j'ai donné à ce message aujourd'hui, c'est « Chrétien ou disciple de Jésus ». Est-ce qu'on est chrétien? C'est-à-dire qu'il faut faire les bonnes choses, il faut... c'est un peu du... Voilà. Ou est-ce qu'on est disciple? Et ces deux choses qui peuvent paraître très liées, les deux, elles sont liées, je pense, mais la compréhension peut être très très différente. Quelqu'un peut se dire chrétien parce qu'il est né dans une famille chrétienne, parce qu'il est né dans une culture chrétienne où c'est normal d'aller en tout cas deux fois par année, Pâques et Noël, à l'église. Et vous demandez à ces gens-là, et ils vont vous dire, moi je suis chrétien. C'est des gens qui vont peut-être venir d'autres cultures, culture animiste par exemple, mais qui vont vous dire, je suis chrétien. Mais il y a plein d'autres choses qui sont là-dedans. Et je me rappelle il y a longtemps, quand avec OM, on était dans les rues et on faisait des sketchs, voilà, on partageait l'évangile avec plein de choses. Et il y avait un petit sketch, j'oserais pas le refaire maintenant, dans la rue, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je me disais, ça, c'est une pensée que j'ai eue en préparant comme ça, où c'est que c'était un sketch où il y en avait un qui conduisait le sketch et puis d'autres qui jouaient. Et le premier arrivait en faisant ça. Et puis voilà, et puis le gars qui conduisait le sketch disait, mais qu'est-ce que tu fous? T'es pas une poule. Puis l'autre il dit, oui, je suis une poule. Puis il dit, mais qu'est-ce qui te fait croire que tu es une poule? Puis il lui dit, mais je suis né dans un poulailler. Et puis le deuxième venait en tant que brum, brum, la voiture, parce qu'il était né dans un garage, etc., quoi. Tout ça pour dire que à la fin de ce sketch, on disait que c'est pas le fait que tu es né ou pas né ou comme ça, c'est ce qu'on vient de chanter, c'est je te donne ma vie. Il y a ce côté dans le disciple, c'est qu'on ne devient pas juste quelque chose, puis après on l'est, et puis ça a plus pas de conséquences. Et j'aimerais voir avec vous un tout petit peu, quelles sont les implications que ça a dans nos vies, qu'est-ce que ça veut dire en fait d'avoir eu cette révélation du salut en Jésus, de s'être repenti, d'avoir donné sa vie, d'avoir accepté la grâce de Dieu, le pardon, la puissance de l'œuvre de la croix, de la résurrection, d'être en relation grandissante, intime avec Dieu. Igor, qui était venu il y a quelques semaines, nous parlait de quelqu'un qui est mort à soi-même. Quand on donne sa vie, on meurt à soi-même et on vit pour Dieu. Ça a des conséquences, hein, quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire là-dedans? Le baptême est aussi une manière de démontrer ça. Quand on part sous l'eau, c'est comme si on meurt à soi-même et puis on renaît en tant que nouvelle créature, adoptée par Dieu, enfant de Dieu, quelqu'un qui vit désormais pour Dieu, qui aime Dieu de tout son cœur. Alors, si tu peux mettre juste le prochain slide, j'aurais pu prendre le truc, mais... Il y a trois versets que j'aimerais juste vous lire pour ancrer un tout petit peu ce message dedans. Le premier, c'est Matthieu, on les connaît bien ces versets, hein, mais c'est « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples ». Il ne nous demande pas de faire des chrétiens, il ne nous demande pas de faire des convertis, il ne nous demande pas de faire des convertis pour qu'on ait plus de monde à l'église. Il nous demande de faire des disciples. Et s'il nous demande de faire des disciples, ça veut dire que nous, Ben, on est aussi disciples là-dedans. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit ou enseigné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le deuxième passage, 2 Timothée 2, 2, pour montrer l'étendue de ce que c'est d'être disciple ou du discipulat, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. D'être disciple, c'est pas juste ben, je reçois quelque chose et puis youpi, je l'ai. Puis je me contente de ça. D'être disciple, ça veut dire qu'il y a eu un moi, il y a eu quelqu'un, il y a eu un Paul dans notre vie, si on est les Timothée, parce qu'il parle à Timothée ici, qui parle à tu, à toi, à Timothée. Et puis, Paul, au travers de ça, il dit, ben, ce que toi, tu as entendu de moi, il y a déjà quelque chose là, hein, en présence de nombreux témoins, ce n'était pas juste du 1-1, même que c'est aussi ça, confie-le à d'autres personnes, à des personnes fidèles. Jésus a confié aussi son enseignement à des personnes fidèles. C'est des personnes envers qui ils n'étaient pas parfaits. Hein, c'était Pierre, c'était les apôtres, les disciples de Jésus. Ils n'étaient pas du tout parfaits, ni les uns ni les autres. En même temps, il leur a confié parce que c'était des personnes fidèles qui étaient capables aussi de les enseigner à d'autres. Et là, on voit déjà 4 générations. C'est que si moi j'enseigne quelqu'un, 2 personnes, ces 2 personnes vont peut-être aller enseigner 2 ou 3 personnes. Vous imaginez la croissance, alors que souvent, je crois, dans nos églises, on est quand même beaucoup dans l'attente que tout doit venir de la personne qui est ici, où je suis maintenant. On vient, on s'asseye, on entend, on écoute, et puis on repart. Et puis on attend le dimanche prochain pour qu'on puisse nouveau s'asseoir et puis écouter et puis entendre et puis on repart. Et le discipulat, c'est quelque chose de très différent. Ça ne dépend pas juste d'une personne. C'est quelque chose qui va mettre en route l'autre personne. Qu'ils soient déjà dans la foi, qu'ils ne soient pas encore dans la foi, qu'ils soient des personnes qui cherchent, qui ont faim et soif de Dieu. Quand j'étais à Zurich là, la semaine passée, celle qui conduit ou que ce groupe me disait, c'est dingue, on a une femme qu'un couple d'amis a rencontrée qui vient de l'Iran et qui est musulmane. Et quand elle a rencontré mes amis, qui sont aussi de la même église qu'elle, elle leur a dit, mais j'ai besoin d'une Bible, j'ai besoin de connaître ce Jésus, qui sait, est-ce que vous avez une Bible que je peux lire? Et elle pleurait en demandant ça. On ne voit pas ça tous les jours. Hein et quand elle a reçu la Bible, elle a pleuré, je ne sais pas pendant combien de temps. Et puis ensuite, elle s'est directement mise à la lire. Et puis elle est venue, puis elle avait des questions. Et puis elle a dit, mais en fait, ce que c'est marqué là-dedans, ça veut dire quoi pour moi et tout ça. Et c'est une femme qui est en chemin. D'accord? Mais ils font du discipulat avec. Ils sont dans la Bible. Elle veut aussi, elle a ce désir de connaître plus, de, etc., etc. Et il y a quelque chose là-dedans. Colossiens 2. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus, marchez en lui. Soyez enracinés, fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. Et vous voyez que j'ai mis des choses en gras et en rouge surtout, c'est le mot enseigner. Et j'aimerais voir avec vous un tout petit peu ce côté de disciple. Être des disciples, c'est être des personnes qui sont enseignables. C'est être des personnes qui enseignent. Ça demande 2-3 choses, parce qu'on est appelé à entrer, non seulement à être enseigné, mais aussi à obéir à ce qu'on entend, à ce que la parole nous dit. Et ça demande de l'humilité, de renoncer à soi-même, de se charger, de s'accroître, ça c'est les termes de Jésus, hein, et puis de suivre Jésus. Ça demande de l'obéissance, de suivre, d'appliquer les enseignements de la parole de Dieu. Avec Simone, on a, pendant tout le confinement, là, on a relu le psaume 119. Je ne sais pas quand c'est que vous avez lu ce psaume récemment. C'est un psaume, le 117, il est vite lu, hein, parce que c'est 2 versets ou 1. Le 119, il est juste un peu plus long. Mais c'est absolument incroyable, en fait. C'est un psaume qui parle de ça, d'appliquer cette parole, de faire cette parole mienne, d'aimer cette parole, de la méditer, de la mettre en pratique, de, etc., etc. C'est que ça sur tous les versets que vous lisez dans le psaume 119. Et dans cette obéissance, il y a quelque chose que Jésus nous dit, c'est demeurer dans ma parole, obéissez, demeurez, pratiquez ma parole, parce que c'est alors que vous serez vraiment mes disciples. Ça, c'est dans Jean 8. Demeurer en Christ, c'est l'intimité. On a besoin de grandir dans cette intimité avec Dieu. D'aimer les autres, même nos ennemis. Ça, c'est tout le côté du service. Et puis, de faire des disciples qui, à leur tour, feront des disciples. Ce mot « disciple », c'est un mot qui est intéressant. Et j'aimerais m'arrêter sur trois aspects, en fait, du discipulat. Le mot « disciple » en grec, c'est « matathès », qui est utilisé ici. Ça veut dire « apprenti », « apprenant », « étudiant ». D'accord ? Mais il y a ces trois aspects qui sont là-dedans. Et puis, on va juste regarder une petite vidéo, si tu arrives à la mettre, avant de passer à ces trois aspects de qu'est-ce que ça inclut d'être disciple. Voilà, il y a beaucoup de choses hein, dans ce tout petit truc. On va le repasser, hein, donc vous aurez le temps de le voir et de le revoir ces prochains temps, en tout cas quand moi je vais parler. Mais j'aimerais parler maintenant spécifiquement, là on voit qu'il y a tout ce fait d'aller, de sortir, d'être dans nos maisons, d'être dans les maisons, d'être dans les lieux publics, d'être un peu dans tous ces endroits-là. Mais j'aimerais m'arrêter maintenant sur trois aspects en fait, du discipulat. On a vu que c'était d'être enseigné et d'enseigner. Et il y a trois choses qui vont rentrer là-dedans. Et puis ensuite, on aura un petit temps de partage autour de ces trois aspects. Si tu peux remettre le diapo avec les... Voilà. Discipulat, il y a ces trois choses. Il y a l'enseignement, il y a l'apprentissage et il y a l'immersion. L'enseignement, c'est ce que je fais maintenant. C'est ce qu'on fait souvent. C'est qu'il y a quelqu'un qui est là, qui sait ou sait pas trop ou sait beaucoup, et qui va donner quelque chose. Et puis, on entend, on écoute, c'est des exposés, c'est des enseignements, c'est d'obtenir l'information, la connaissance, c'est peut-être de penser correctement, c'est de savoir ce qu'il faut faire. Il y a tous ces aspects qui sont là. C'est là où il y a quelqu'un qui enseigne d'autres. Et il y a besoin de ça. Jésus l'a fait. Il enseignait les foules. Alors, il a enseigné les foules avec des paraboles, il a enseigné des foules avec des histoires, avec plein de choses, mais il a enseigné les foules. Donc, c'est un aspect qui est important de pouvoir être enseigné. C'est là qu'il y a ceux qui sont enseignants qui vont venir, qui vont apporter des choses. Ensuite, il y a tout le côté de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est un petit peu différent que l'enseignement. L'apprentissage, ça va se forger en pratiquant, en apprenant à faire. Il va y avoir besoin de quelqu'un qui apprend à l'autre. Et ça demande de l'humilité, parce que quand on apprend à l'autre, ça veut dire qu'il faut lui faire confiance, ça veut dire qu'il faut permettre la faute, ça veut dire qu'il ne faut pas faire à sa place. Souvent, les chrétiens, on est très forts hein, pour faire à la place des autres. Ça vous arrive aussi ? C'est plus simple si je fais moi-même. Ça va plus vite, perd moins de temps. Puis au moins, je sais comment c'est fait. Et c'est pas ça. L'apprentissage, c'est justement pas ça. C'est de dire non, je vais marcher à tes côtés, on va faire ensemble, puis ensuite, c'est toi qui vas pratiquer, tu vas faire. Je vais vous donner des exemples concrets, pratiques avec ça après. Pour la personne qui apprend, qui est l'apprenti, il doit sortir de sa zone de confort. Il doit oser. Il doit avoir du courage. Il doit pratiquer. Il ne doit pas avoir peur de faire peur. De faire faux, pas de faire peur. Pas avoir peur de faire faux. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. D'accord ? Je me rappelle mon apprentissage de confiseur où on devait apprendre à couper des biscuits avec un couteau et il faut les couper plats. Les premiers que vous faites, ça va en général comme ça ou comme ça. Après, vous passez de comme ça à comme ça. C'est compliqué. Et vous regardez faire, c'est simple. Si moi je vous coupais un gâteau aujourd'hui, j'ai pas pensé, mais j'aurais pu en prendre un en fait. Et puis que je prends mon couteau et puis que je coupe mon gâteau, il sera coupé à plat. Vous avez à 1 mm près, tout le long de la tourte, vous avez la même épaisseur. D'accord? Et je peux vous enseigner comment est-ce qu'il faut le faire. Il faut tenir ton couteau comme ça, tout ça, ça c'est l'enseignement. D'accord? On avait ces leçons à l'école, dans les cours. Ça t'apprend pas à faire. Ça te donne de la connaissance intellectuelle, c'est chouette. Mais l'apprenti, c'est voilà, il faut apprendre, il va voilà, et puis on va te remontrer, et puis ça demande beaucoup d'humilité des deux côtés. Il y a besoin de quelqu'un qui sait et qui m'encourage, qui me coach, qui me modèle, pas qui fait pour moi. Ça inclut l'enseignement, mais aussi l'encouragement, la créativité, la correction. On n'aime pas trop ce mot, la correction, hein? Mais ça inclut aussi ça. Et c'est une pratique d'investir dans l'autre. Et une pratique de laisser quelqu'un investir dans nos vies. Laisser quelqu'un avoir un droit de regard dans nos vies. Ça prend beaucoup de temps, de l'énergie. Pour certains, ça prend la vie. Ça demande de la patience, de la persévérance, de la confiance. Mais là, on va passer en fait de l'enseignement qui donne une connaissance au sujet de Dieu et de la vie en Christ à une connaissance de Dieu, à une connaissance des choses qui nous appellent à vivre. Et là, Jésus, on voit qu'il apprend, il fait des disciples, pas avec des grandes foules. Il enseigne les grandes foules. Mais après, il a 12 personnes. Et dans ces 12, il y en a 3 encore, qui sont encore plus proches, qui sont ses disciples. On ne peut pas faire des disciples avec des tonnes de gens. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de chacun. Ce n'est pas juste un pasteur qui va faire des disciples de toute une église. Ce n'est pas possible. Parce que ça veut dire de passer du temps avec, ça veut dire de s'asseoir, ça veut dire de faire, ça veut dire de pratiquer ensemble, ça veut dire de corriger, d'encourager, de coacher, de montrer. Vous voyez le truc là-dedans? Et puis ensuite, il y a le côté plus subtil qui est l'immersion. L'immersion, c'est non seulement j'apprends, mais je vais apprendre aussi les valeurs qui vont avec, la culture, la vision du monde, qui vont devenir partie intégrante de qui je suis. C'est des choses qu'on a de la peine à enseigner. J'ai pris comme, et ça se passe en groupe, en relation étroite avec d'autres. J'ai simplement pris avec l'exemple des disciples aussi. Donc Jésus enseignait les foules, ensuite il a fait l'apprentissage avec eux, hein, et puis ensuite ces 12 ont vécu 24 sur 7 avec Jésus. Ça, c'est l'immersion, c'est quand vous êtes dedans. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vient vivre chez toi et puis qui vient pour apprendre à vivre la foi en étant chez toi. C'est cool, hein? Ça vous tente? Deux exemples. Le premier, c'est l'apprentissage d'une langue. Vous pouvez apprendre une langue par l'enseignement, en allant dans une classe, en ayant quelqu'un qui vous enseigne, par Internet, par plein d'autres moyens, où vous apprenez. Ensuite, vous avez l'apprentissage. C'est quand il y a quelqu'un qui vient à vos côtés, un maître, si vous le mettez ça comme ça, mais quelqu'un qui vient, qui est là, pour non seulement que vous appreniez au travers des livres, mais que vous appreniez aussi à parler, à avoir la bonne prononciation, à avoir toutes ces choses-là que vous n'allez pas apprendre en classe. Et puis qui va repérer les erreurs que vous faites, qui va vous dire waouh, c'était génial ce que tu as dit aujourd'hui, puis le lendemain vous dites la même chose, puis il comprend rien ce que vous dites. Ça vous est déjà arrivé ça? Quand on apprend des langues, c'est souvent un petit peu ces choses-là. Et puis c'est quelqu'un qui va répéter, 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 répéter. Ça demande beaucoup. Et puis l'immersion, c'est en fait non seulement d'avoir l'enseignement, non seulement d'avoir quelqu'un qui apprend, qui chemine avec moi, mais c'est d'être là, dans une famille, dans un groupe, dans un village, dans un coin où c'est que je m'immerse dedans. Et puis je vais avoir des gens qui m'apprennent, mais je vais pratiquer avec des autres. Puis quand je suis dans cette culture-là, je vais apprendre plein plein de choses qu'il n'y a personne qui peut vous apprendre. Vous allez apprendre les valeurs, pourquoi il y a certaines phrases, certains mots qui sont importants pour eux, pourquoi ils les utilisent, pourquoi ils n'utilisent pas d'autres, etc. Et ça va, vous allez apprendre énormément sur l'histoire de la culture, sur la culture et tout ça. Et je crois que dans l'immersion, pour moi, c'est aussi là où Dieu veut nous enseigner les cultures ou la culture du royaume de Dieu. Ça, c'était juste l'exemple de la langue. Il y a l'exemple de la prière. C'est une chose qui m'a frappé parce que j'étais dans différents groupes au travers de ma vie. Là où j'ai grandi, dans l'église où j'étais, on enseignait la prière. Et les responsables priaient pour nous au début et à la fin. Mais en tant qu'enfant, on ne priait pas, ou rarement. Or, on priait à la maison, hein, un petit peu, mais souvent, c'était les parents qui priaient. D'accord? Et voilà, ils modèlent quelque chose, mais il n'y avait pas ce côté d'implication personnelle là-dedans. Et je peux avoir toute la bonne théorie de ce qu'est la prière et tout ça ne va pas me faire avancer en schmilblick. Ensuite, il y a le côté d'apprenti. C'est où non seulement il y a l'enseignement, comment est-ce qu'on fait, tout ça, mais c'est on modèle, on pratique, on va enseigner, mais on va laisser aussi et encourager les gens à prier. Et le fait de vivre aussi, c'est depuis ces quelques mois, depuis le confinement, là, ou depuis qu'on a recommencé les cultes, c'est aussi justement d'entrer dans cette démarche, dans les petits groupes, où c'est qu'on parle, où c'est qu'on est des modèles les uns pour les autres, puis où on pratique en fait la foi, où on pratique de partager ce qu'on vit avec Dieu, où on pratique de partager nos questions, où on pratique de partager la prière les uns pour les autres et tout ça. D'accord? Ça, il y a aussi tout ça là-dedans. Et puis ensuite, il y a cette culture, voilà, on la vit là, mais en fait, il y a l'immersion, c'est tout ce côté de. Quand ils sont à la maison avec nous, quelle culture est-ce qu'ils vont voir par rapport à la prière? Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait? Il y a quelque chose de super, on va remercier Dieu, c'est automatique. Il y a quelque chose de difficile, on va se placer devant Dieu, on va prier ensemble. Et pas juste monsieur ou madame ou quelqu'un, c'est tout le monde, on participe. Et moi, c'est des choses qui me remettent beaucoup, beaucoup en question de comment est-ce qu'on vit ces choses. Le Covid, c'est mon dernier exemple. Je l'ai rajouté ce matin parce que je me suis dit, mais on est dans une phase quand même assez compliquée. Je peux avoir plein de connaissances du Covid, ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Au niveau de la foi, est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça vient du Satan, est-ce que ça vient. On peut avoir plein, 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 plein de trucs, voilà, d'enseignements, il y en a beaucoup sur Internet, etc. L'apprentissage, c'est en fait d'être avec des gens qui vont nous montrer et démontrer et apprendre à vivre la foi dans une crise. Ça, c'est l'apprentissage. C'est comment est-ce que moi, est-ce que j'ai des modèles pour ça, mais comment est-ce que je modèle ça et comment est-ce que je vais encourager d'autres, pas seulement les enfants, hein, d'autres personnes, à vivre la foi dans une crise? Quel modèle est-ce qu'on donne? Comment est-ce qu'on aide les autres à pratiquer la confiance, la foi, la prière, l'intercession, le service? Qu'est-ce qu'ils voient en fait de tout ça? Ça, c'est l'apprentissage. C'est de me laisser interpeller par d'autres, de me laisser enseigner par d'autres, de commencer à pratiquer, mais aussi de prendre quelqu'un à mes côtés et puis de les enseigner. Et puis l'immersion, ben c'est des gens qui vont être dans une culture. Et là-dedans, il y a peut-être que des gens vont percevoir la culture du royaume de Dieu face au désastre, face à l'injustice, face à la souffrance. Là-dedans, j'ai juste marqué la foi, l'espérance, la vérité. Comment est-ce qu'on vit toutes ces choses? Qu'est-ce qui fait la base de ce qu'on fait dans l'apprentissage, de ce qu'on vit ensemble? Ça va? Vous êtes encore avec moi? Enseignement, apprentissage, immersion. Et avant qu'on passe aux questions, j'aimerais juste encore faire une prière avec vous, si tu peux la mettre. Et puis j'aimerais on peut rester assis, mais qu'on la lise ensemble. Simplement qu'on puisse être Voilà, unis là-dedans, et puis priez cette prière, si vous êtes en accord avec, bien sûr. Je vous laisse juste le temps de la regarder en 2 minutes. C'est bon? Donc ceux qui veulent se joindre, on peut lever nos voix par rapport à ce thème, et puis ensuite on aura deux, trois questions pour partager en petit groupe. Dieu, merci que nous ayons accès à toi, où que nous soyons, que ce soit à la maison, à l'église, grâce au sacrifice de Jésus. Merci que nous puissions être tes disciples et te suivre quotidiennement. Aide-nous à être fidèles à ce commandement. Guide-nous dans l'apprentissage des vérités contenues dans ta parole et dans l'apprentissage de ce que signifie être disciple de Jésus, suivre Jésus et faire des disciples. Amen. Voilà. On ne fait pas très court, on pourrait développer tous ces thèmes beaucoup, beaucoup plus longs encore. Mais il y a les enfants qui sont avec nous en bas aussi. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de faire aussi plus court pour qu'ils puissent garder l'attention et être avec nous. Quelques questions, si tu peux les mettre, sur lesquelles j'aimerais qu'on puisse s'arrêter ce matin. La première, c'est où as-tu vécu quoi? Vous réfléchissez à ces mots, immersion, apprentissage, enseignement. Où est-ce que tu as vécu l'enseignement? Où est-ce que tu as vécu l'apprentissage? Peut-être avec qui? Où est-ce que tu as vécu l'immersion pour ta foi, pour ta vie de disciple? C'est pas pour être confiseur maintenant, c'est juste la vie de disciple. D'accord? Et puis, vous essayez d'être concret. Et puis là-dedans, ça peut être quand tu cherchais Dieu, ça peut être quand tu étais un nouveau disciple, que tu venais de donner ta vie à Jésus. Ça peut être maintenant, après plein d'années. Où est-ce que tu as vécu, où est-ce que tu vis et quoi? Et puis comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce qu'on le vit, cet enseignement? Comment est-ce qu'on vit l'apprentissage d'être disciple? Comment est-ce qu'on vit cet apprentissage d'être dans cette immersion? Et puis pour les adultes, donc ça sera nous ici, j'aimerais qu'on ait une petite réflexion par rapport à l'Église ici, pas l'Église en général. D'accord? Mais juste à la fin, on ne veut pas faire très long sur ça. Mais qu'est-ce qu'on pratique dans notre communauté? Et dans quel domaine est-ce qu'on peut croître?